I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité une jeune femme passionnée par le Japon qui a plaqué son travail dans l'audit pour mettre en avant le savoir-faire de ce pays. Nima Krings a créé Nimet, un mixage élégant entre la mode, les voyages, l'art et l'artisanat. Nimet, c'est le surnom que lui donnaient ses amis au lycée, mais Nimet, c'est aussi et avant tout le fruit de plusieurs cultures, et un très joli fruit. Bonjour Nima.
Bonjour Valérie.
Alors, tu es née et tu as grandi en Guinée.
Oui.
Peux-tu nous parler de ton enfance?
Oui. Alors, je suis née en Guinée, exactement à Mamou, une petite ville qui se trouve au nord-est de la Guinée, qui est une ville de 10 000 habitants. Du coup, j'ai vécu là-bas de mes 0 ans à mes 6 ans. Avec mon père.
Tu me disais que c'était une famille traditionnelle africaine.
Ouais, tout à fait, vraiment traditionnelle, où tout le monde s'habille en tissu, en boubou. Là-bas, on fabrique nous-mêmes nos vêtements. En gros, on va voir un tailleur. Donc, on prend des mesures pour nos vêtements. On choisit le tissu, on prend des mesures et après, on fabrique, on décide du modèle. Et donc, souvent, la plupart des gens étaient habillés plutôt sur mesure. Donc, c'est ce qui était assez fascinant pour moi déjà à l'époque. Mmh.
Mais parce que si je te pose cette question sur ton enfance, oui, et puis ton adolescence, oui, c'est parce que tout ça, ça a une influence sur la femme que tu es devenue aujourd'hui.
Tout à fait.
C'est pour ça que j'ai pu vraiment...
Tout à fait. Et du coup, j'ai grandi là-bas. Et après, je suis partie vivre au Gabon de mes 6 ans du coup jusqu'à mes 12 ans dans une ville, Libreville, une très grande ville pour le coup, changement de monde. Là, j'ai appris aussi, j'étais dans un lycée français évidemment, mais j'ai appris à connaître aussi la culture gabonaise, qui est assez différente de la guinéenne.
Pourquoi ?
Ils sont beaucoup plus, c'est plus dans la finance, dans l'ouverture. C'est un pays qui est beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, vers la France, que la Guinée qui est beaucoup plus fermée vers elle. Du coup, ça m'a permis de découvrir aussi l'économie, la vie, le mouvement, le changement. Et après, on est venu en France, définitivement, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau au Gabon. On ne voulait plus trop de Français à ce moment-là. Donc, on est revenu en France. Et là, j'habitais dans le 17e.
Du coup, tu as une éducation parisienne.
Parisienne, tout à fait. Très, très parisienne, avec ses codes. Et voilà.
Et quand on a échangé pour la première fois, tu m'as parlé aussi de ton beau-père,
oui,
qui a eu une influence,
tout à fait,
artistique, c'est ça?
Il y a eu mon beau-père qui a une influence plutôt intellectuelle avec moi, et ma mère qui m'a plutôt aidée au niveau artistique. Parce que ma mère, elle a toujours eu du goût. Elle a toujours été une femme qui s'habillait très, très bien. Et quand j'étais petite, elle nous habillait chez Dior, des petites des marques comme ça. Et on a toujours eu... Elle a toujours voulu qu'on soit toujours très belle, très présentable vis-à-vis des autres. C'est quelque chose qui était très important parce qu'elle organisait beaucoup de dîners à la maison. Donc, c'était une femme qui recevait. Et elle adorait que ses filles soient mises en avant par le vêtement, par leur look.
Alors... Je disais que alors là, tu nous parles de l'Afrique, de Paris, et puis hop, le Japon.
Et oui, oui.
Alors, bon là, on fait tu es jeune,
gap.
Mais on fait un gros gap.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Japon?
Eh bien, j'ai toujours été fascinée par le Japon parce que j'ai commencé à être fascinée par le Japon quand je suis arrivée en France et que j'ai rencontré, en Afrique, tu vois, peu d'Asiatiques. Et quand je suis arrivée ici, il y avait une fille dans ma classe qui était asiatique. Et je lui ai dit, mais tu viens d'où? Elle m'a dit, du Japon. Je lui ai dit, mais c'est où le Japon? Et elle m'a montré sur une carte, c'était loin. Je me suis dit, waouh! Donc, j'étais assez fascinée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je me balade en Paris, bah, on voit bien que les Parisiennes sont quand même très bien habillées. Et j'avais remarqué quelques Japonaises qui avaient des vêtements très différents de nous, qui étaient beaucoup plus stylés, beaucoup plus elles avaient l'air plus à l'aise dans leurs vêtements. Je lui ai demandé, mais d'où viennent? Je dis, ah, bah, il faut que tu ailles au Japon. Donc, j'ai toujours cette fascination du Japon. Et je l'ai gardé en moi. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis japonais à Paris parce qu'ils sont assez communautaires quand même à Paris. Donc, j'ai commencé à...
Ah, tu t'es penchée sur la culture à Paris.
La culture à Paris avec des amis japonais. Et l'idée donc d'aller au Japon était très présente. Et quand j'ai rencontré mon mari, on a eu l'idée de partir au Japon parce qu'il travaillait lui avec des Japonais. Et donc, la première fois, il m'a fait cette surprise. Ben, Nima, je t'amène au Japon. J'étais aux anges. J'étais là. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie comme si c'était chez moi.
C'est
comme
fou.
Si ça faisait partie de moi. Et j'ai été tout de suite très à l'aise. Même les Japonais avec moi, ils sont très à l'aise. Et du coup, on a un rapport très fusionnel.
Question pratique pour la langue.
Eh ben, écoute, malheureusement, j'ai commencé un tout petit peu, mais mon japonais est vraiment très, très nul. Donc, je n'oserais pas parler japonais aujourd'hui. Mais on se comprend par l'anglais, certains. Et d'autres parlent français, parce que j'ai quand même des amis français qui sont au Japon. Donc, ils m'aident aussi à traduire. Mais clairement, les japonais, les créateurs japonais ne parlent pas du tout anglais, il faut le savoir. C'est très compliqué pour eux de parler une langue étrangère. Mais on arrive quand même à communiquer par le regard, par la gestuelle, par le mouvement.
La gestuelle est assez importante au Japon, c'est ça.
Bien sûr, tout à fait. Le bonjour ou le au revoir, il y a quand même, on se penche en avant, oui, ils utilisent beaucoup les mains et aussi la tonalité de la voix signifie beaucoup de choses. Souvent, certains mots, ça change en fonction de la tonalité. Voilà.
Alors, maintenant on sait ton attirance pour le Japon.
Oui.
Maintenant, comment t'es arrivée à créer Nimet?
Eh bien, Nimet, j'ai beaucoup pensé à faire quelque chose avec le Japon. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis allée une fois me balader dans les ruelles de Motesando, je me suis perdue et je me suis dit, bon, je ne sais pas où je suis. Tiens, j'ouvre une boutique, je rentre. Et là, je tombe sur une créatrice. Je lui dis, mais c'est vous qui fabriquez les vêtements? Elle me dit oui. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. C'est rare de rencontrer dans des boutiques, dans des quartiers assez chics, comme nos Champs-Élysées, de tomber sur un créateur qui vend ses propres créations.
Totalement indépendant. Ben, en France, il y en a de moins en moins.
Non, exactement. Et du coup, je me suis dit, bah, écoutez, vous faites du très bon travail. Et j'ai pris deux articles. Il m'a dit, ah, mais si vous aimez ça, allez voir telle ou telle boutique. Je suis allée voir deux autres boutiques. Et là, j'ai ramené toute une petite collection pour moi, personnelle. Et j'ai commencé à les mettre à Paris. Et là, tous mes amis, non, mais donne-moi ton t-shirt, donne-moi ton
pull. C'est la première chose que je t'ai dit en rentrant.
Voilà.
Je dis, mais c'est le haut que tu portes est magnifique.
Merci.
Et après, donc, tu as commencé à ramener à tes copines
des vêtements pour les copines, pour les amis. Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même lancer. Donc, je suis retournée plusieurs fois pour faire un brainstorm, pour voir ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile. Donc, je me suis rendu compte que oui, c'était possible.
En plus, là, il y a eu le Covid, donc le pays était fermé.
Exactement. Donc, ce qui a retardé un peu le lancement. Donc, on a mis 2 ans à... Bon, l'avantage, c'est qu'on a pu peaufiner au mieux l'idée, le concept. Et grâce à... Après, quand ça a ouvert, du coup, on a pu partir. Du coup, ça a ouvert en avril dernier. On est parti en mai. Et j'étais heureuse de retourner dans
Tu retournais chez toi, quelque part.
Oui. Je me suis sentie... Quand j'arrive là-bas, je respire. J'ai l'impression d'être une autre personne, de revivre. C'est enivrant comme pays.
Et tu me parlais du mythe de la Parisienne tout à l'heure. Donc, tu préfères le style des Japonaises?
Tout à fait, ouais. Je trouve que c'est plus élégant. Il y a un savoir-faire qui est unique. Il y a un esthétisme, un mélange et les matières sont beaucoup plus recherchées que chez nous. On reste, nous, dans le basique, coton, normal. Là, j'ai rencontré un créateur. Il travaille le coton de riz.
Le coton de riz.
Oui, tout à fait. Il travaille plein d'expériences. En fait, ils sont toujours dans une recherche de ce qu'ils peuvent apporter en mieux.
Et oui, tu me disais qu'en fait, les écoles de mode ne sont pas connues là-bas. Il y en a...
Non, pas trop. En général, souvent, ils viennent étudier quand même soit en Europe, en Angleterre ou en France. Et après, ils repartent chez eux pour ouvrir leur...
Et tu travailles aussi avec des petits artisans?
Oui, oui. Oui.
C'est pas des designers hyper connus?
Non. Là, Osaka Kentaro, un jeune créateur, lui, il est carrément dans sa maison à Tokyo. Il coud. Il a un petit studio où tu rentres. Il y a ses trois machines à coudre. Il fait tout à la main.
Il faudrait faire des vidéos et les montrer.
Ouais, bien sûr, on va le faire. Et puis, je suis tombée amoureuse de son travail, de son lieu, de son cadre de vie et de son histoire.
Et quand tu leur dis que c'est pour les rapporter en France ou les développer à Paris, et comment réagissent ces petits artisans?
Les artisans, ils sont très contents, très fiers, puisque Paris reste quand même un lieu de mode.
La capitale de la mode,
tout à fait. Donc, ils sont quand même assez méfiants, parce que souvent, ils pensent que les gens veulent... salir leur marque ou faire des
ou copier même
copier,
peut-être
copier voilà et du coup ils sont assez méfiants, donc moi je les rassure en leur disant écoutez, nous on n'est pas là pour ça, moi je veux mettre surtout en valeur ton travail et toi, et non juste essayer, si ça marche je vends, si ça marche pas tant pis, je t'oublie. Non, l'idée c'est vraiment qu'on ait une collaboration, et Nimet ramènera vraiment les créateurs à Paris pour que les gens les rencontrent aussi, parce que c'est un travail à...
En tout cas, c'est une très belle histoire qu'on va suivre.
J'espère.
Alors, quel est ton style? Parce que quand tu nous parles de ton enfance, de ton adolescence, de ta jeunesse à Paris, de tes voyages et du Japon...
Alors moi, je suis une fille qui est plutôt dans l'audace. J'aime bien mélanger les styles, j'aime bien créer la surprise. Même au niveau coiffure, je ne me coiffe jamais deux jours pareil. Je suis quelqu'un qui aime mélanger, créer son propre style où je me sens bien, en tout cas. J'aime être à l'aise et bien dans mes vêtements.
Et tu l'as trouvé à quel âge, ce style?
Ce style, j'écoute...
T'as toujours été 14, comme ça?
Ouais, 14-15 ans déjà, j'avais mon style.
T'étais comment, ado?
Ado, on faisait du skate, mais j'étais la seule skateuse qui était habillée avec une petite chemise très mignonne et un pantalon de Dickies. Donc, mes copines me regardaient et me disaient, mais Nima, on va skater, donc il faut mettre un t-shirt. Ah non, moi, je fais ma petite belle chemise ou mon petit pantalon, parfois un peu, mon petit jean. Elles me regardaient et me disaient, non, mais Nima, c'est pas ça, le skate.
T'es pas une vraie skateuse, en fait.
Voilà, finalement, j'étais plus une modeuse skateuse qu'une vraie skateuse.
Ah, une modeuse skateuse. Voilà. Est-ce que t'es une modeuse qui suit les tendances?
Oui, évidemment, puisque on est dans un univers où on est noyé dedans, donc forcément. Et puis il y a parfois des belles pièces, je le reconnais. Je m'habille dans des hautes marques aussi, des beaux sacs français, de belles marques françaises. Mais je mélange aussi avec des choses peu connues. Mais j'essaie d'être dans l'originalité, dans quelque chose qui n'existe pas.
Alors, quand on est original, souvent, enfin, c'est un sujet que j'aborde souvent avec mes invités dans Chiffon, c'est qu'il y a le regard de l'autre, des autres. Comment tu...
Moi, le regard des autres, c'est plutôt, ça ne me gêne pas, puisque au contraire, ça veut dire que je les intrigue et ils s'intéressent à moi. Et donc, c'est une manière aussi de pouvoir dialoguer, de partager quelque chose, de créer un lien. Donc,
si quelqu'un te dit non mais j'aime pas du tout ton gilet, ou comment ça te bouffe ta journée, ou pas du tout,
puisque je suis quelqu'un de plutôt sereine, et j'aime au contraire qu'on me challenge, donc je vais lui expliquer pourquoi tu n'aimes pas. Discutons-en.
C'est vrai. Voilà. Ah ouais, toi carrément.
Ah ouais, carrément. Je suis pas touchée par les critiques, non, vraiment. Au contraire, je trouve que les critiques, ça te permet d'avancer. Et de se construire et de comprendre pourquoi la personne n'aime pas, et d'améliorer, de gommer les choses qui ne vont pas, si toi, tu es d'accord avec elle.
Ouais. Bien sûr. C'est terriblement subjectif, en plus.
Exactement,
le goût. Tout ce qui est Fashion Week, tout ça, tu regardes ou pas du tout?
Pas du tout, je ne regarde pas du tout. C'est pas du tout dans mon planning.
Où tu puises ton inspiration?
Je l'appuie surtout dans mon enfance, comme tu dis, ma mère. Et mon enfance, c'est-à-dire et dans mes voyages. C'est là où je m'inspire tout le temps, c'est quand je voyage, parce que je voyage beaucoup. Je pars tous les un mois et demi dans plusieurs pays différents, en fonction de nos envies. Et je trouve toujours des pièces, des artistes, des couleurs, des choses qui me donnent envie de mélanger. Une fois, on est allé dans le Svalbard, un pays où il n'y avait pas de fleurs, pourtant c'est dans le nord de la Finlande, où vit l'ours polaire. Et bon, il n'y a rien. Et pourtant, je suis tombée sur des jolies fleurs violettes, roses, jaunes, qui m'ont inspirée. Je me suis dit, ah tiens, cette année, je voudrais que j'achète des robes jaunes. Ça irait trop bien.
Ouais,
direct, même par des fleurs.
Ah oui, t'es pas du tout, en fait, t'es pas du tout le nez dans les magazines. Ouais. Alors, je sais que tu n'es pas du tout non plus sur Instagram. C'est pas du tout, ni mettre un compte Instagram. Mais
tout à fait.
C'est pas, on peut le dire, c'est pas toi qui le gères vraiment. Tu le supervises.
Oui, oui, je
le
supervise.
Mais tu ne vas pas, ça ne t'intéresse pas.
Non, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rencontrer les créateurs et de mettre en avant leur travail. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on crée un showroom pour que les gens puissent venir voir le travail des créateurs et les rencontrer aussi. Moi, je suis plus dans l'humain, dans le partage.
C'est vrai, parce que showroom, c'est ça. Ça veut dire rencontrer les gens.
Exactement, tout à fait.
C'est pour le lien social.
Et oui.
D'ailleurs, quand tu chopes, j'imagine, tu préfères choper en vrai ou en ligne ? Enfin, en vrai.
Bah, moi, j'utilise les deux quand même. J'aime bien Internet puisque ça permet, quand on a pas trop de temps, d'avoir des articles qu'on connaît déjà, mais je suis d'accord pour le toucher d'abord. Quand on ne connaît pas des marques, c'est bien d'abord de les découvrir en allant voir. Mais après, l'achat en ligne, je trouve que c'est plus efficace, c'est plus rapide. Voilà.
Et pour tes enfants, est-ce que tu leur donnes une éducation ?
Oui. Oui, je leur apprends à choisir des vêtements durables.
Tu leur donnes une notion d'éco-responsabilité.
Elles sont pas du tout. Non, je vais pas dans les boutiques de fast fashion, déjà interdit.
Interdit.
Ah oui, c'est interdit à la maison.
Donc les enfants ont la petite a 7 ans.
7 ans et 8, 15 et 17.
Ah oui, les 15 et 17. À cet âge-là, elles vont plus dans les friperies aussi, non ?
Oui, tout à fait. On va dans les friperies où je leur donne aussi des vêtements, mes vêtements, où on va aussi dans des concept stores quand on est à l'étranger, où je ramène aussi des vêtements du Japon pour eux.
J'ai l'impression qu'il y a un mot qui pourrait te convenir, c'est la transmission.
Oui. Ça, c'est pas mal, ouais. J'aime bien transmettre. J'aime bien qu'il y ait un lien, ouais. Donc, la transmission, je le valide.
Est-ce que ta maman ou quelqu'un t'a donné un conseil mode qui t'a marqué et que tu voudrais aussi transmettre à tes enfants ou à des amis ou...
Oui, on a dû m'en donner. Je pense que ma maman m'a toujours dit, ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise et bien dans tes vêtements et que tu... Et que tu puisses faire ce que tu veux avec. Il faut que tu sois libre. La liberté, je pense.
Liberté de style.
Ouais, liberté de style, tout à fait.
Bon, est-ce que tu as quand même un souvenir d'un fashion faux pas ?
Fashion faux pas oui, quand je me déguise, parfois, une fois, je m'étais déguisée en Père Noël. Et j'ai trouvé ça très, très moche. J'étais pas très jolie, non.
Ouais,
j'ai pas aimé.
C'était un Père Noël raté, en fait.
Ouais, un Père Noël raté. Une Mère Noël ratée, même, on va dire.
Quel est le vêtement dans lequel tu te sens absolument irrésistible ?
Je me sens irrésistible dans un jean moulant avec un petit t-shirt blanc.
C'est ta base ?
Ouais, c'est ma base.
Quand tu n'es pas inspirée, c'est quoi ton vêtement doudou ?
Quand je ne suis pas inspirée, je mets un pantalon large plutôt et un petit t-shirt blanc. Pantalon confort, donc assez large. Voilà.
Jupe ou pantalon ?
Je suis plutôt pantalon.
Et les jupes, si tu en portes, c'est midi, mini ?
Midi plutôt. Mais je suis plus pantalon ou robe, mais pas très rarement jupe.
Tu es très grande quand
oui,
même.
Oui,
alors, talon ou pantalon ?
Pantalon.
Donc toujours tu fais pas partie de ces femmes. Alors, qu'est-ce qui te... Tu sais, il y a des femmes qui portent des talons pour se rendre fortes. Je te citais une invitée qui m'avait parlé de ses bijoux. Toi, est-ce que tu as quelque chose... Quand tu as besoin de te sentir un peu plus forte, est-ce que tu as un vêtement, un objet qui te...
Moi, ça serait... Pour me sentir forte, j'aime bien avoir une belle veste. Ça me dresse, ça me rend encore plus droite, ça me donne des épaules bien droites et j'aime bien ça, une veste. Ouais.
Quel est ton rapport à l'accessoire ?
C'est important, je pense que ça finit une tenue et en effet, j'ai toujours un sac avec moi quand je sors, je ne pourrais pas sortir sans sac et j'aime bien avoir un sac ou un collier ou des bagues. Je porte toujours des bagues tout le temps, donc j'aime bien les bagues aussi.
Que tu rapportes de partout aussi ou...
Non, pour les bagues, non, c'est plutôt des marques européennes,
ouais,
pour le coup.
Ouais.
Ouais, les colliers, oui, ça, j'en ai pas mal de plein.
Ah, c'est drôle,
mais les
pas
bagues,
les bagues.
Non.
Pourquoi
il y a une seule marque que j'aime dans les bagues.
Tu peux la citer
c'est Buccellati. Donc, je ne vais que chez eux.
Ah oui, c'est... Ouais. Et tu as d'autres manies, entre guillemets, comme ça, même dans les fringues. Est-ce que tu as des marques favorites, fétiches?
Les marques...
À part les créateurs japonais, ouais, ça, on l'aura compris.
Voilà. Après, sinon, je m'habille souvent chez Acne. Mmh. J'aime beaucoup. C'est une marque où on est à l'aise dans les vêtements. Et j'aime bien Acne. Parfois, je vais chez Chanel, évidemment, et chez Saint Laurent aussi.
Des bons basiques chics.
Oui, voilà, des bons basiques chics, exactement.
Est-ce que tu vas dans les fripes hein?
À Paris, non, mais à Tokyo, oui. Mais énormément dans les vintage. Je ramène d'ailleurs des vêtements Nimet de Tokyo, de vintage.
Tu trouves que nous sommes en retard sur le vintage?
Tout à fait. À Tokyo, c'est devenu le numéro 1, le marché en ce moment. Tu as beaucoup plus de fripes à Tokyo que de nouveaux créateurs qui ouvrent de boutiques. Ouais, c'est devenu...
Pourquoi c'est pour une... Ils sont dans la recherche d'une certaine éco-responsabilité ou...
Je pense, oui. Et en plus de ça, ils ont des créateurs, tellement de créateurs qui ont produit tellement de beaux vêtements que les gens veulent revoir ces créateurs-là. Et moi, je suis d'accord. Il y en a comme des garçons, par exemple, est une marque japonaise qui est vintage, mais il est juste extraordinaire, magnifique et... Je ne rêve que de rapporter que du vintage comme des garçons pour n'y mettre.
Et est-ce que tu vas dans les comme des garçons d'aujourd'hui?
Bien sûr, j'y vais aussi. Mm. Oui, on retrouve quand même quelques pièces encore magnifiques. Même à Paris, celui de Paris, j'y vais aussi. Une fois par an, celui de Paris. Donc, quand j'arrive, ils savent que c'est... j'arrive. Donc,
Tu vas une fois par an?
Ouais.
Là, tu fais le plein?
Ouais, je fais le plein une fois par an. Et en novembre, j'arrive, je dis « je suis là !» Et hop, je fais une razzia des meilleures pièces. Et voilà, ça me fait... J'adore. La boutique, elle est magnifique en plus à Paris. Et ils sont très gentils, les vendeurs.
Quelle est ta couleur préférée?
Le rouge. Je mets beaucoup de rouge.
Tu te sens plus forte ou...
Oui. J'avais un très beau manteau rouge, d'ailleurs, que un de mes copains m'a piqué. Mais tant mieux, parce qu'il lui va encore mieux. et de post-élégante. Et c'est, pour moi, le rouge, c'est la couleur... de la vie, de l'amour, de la joie, du bonheur.
À Paris, on voit peu de gens en rouge.
Ouais, c'est pour ça que j'aime en plus, d'autant plus le rouge.
À propos des Japonais, pour moi, alors tu vas peut-être te dire que j'ai une fausse idée, mais pour moi, ce sont des gens qui s'habillent beaucoup en marine, en gris.
C'est vrai. Ils sont en gris, noir, marine, ouais, tu as raison. Ils sont assez discrets parce que c'est dans leur culture aussi, la culture japonaise. C'est la discrétion, c'est le profil très low profil. On n'est pas ostentatoire, on ne se remarque pas. Mais par contre, quand tu es dans le milieu des créateurs un peu, ou que tu vas chez les artistes, tu retrouves ce côté folie ou le soir quand ils sortent parce que ils sont complètement libres, ils font ce qu'ils veulent, ils sont fous, ils sont dynamiques, ils sont souriants, ils aiment faire la fête. Et c'est un autre monde, il y a vraiment deux mondes. Puis aussi, il y a le monde comment on appelle ça,
des salaryman, non?
Non, des nanas qui s'habillent en...
Ah oui, les... Ah, ça y est, oui, alors les auditeurs vont dire, mais si, c'est ça.
Voilà.
Non, pas kawaii, parce que c'est la Corée, mais...
Kawaii, c'est
la Corée, non?
Oui, kawaii, ça veut dire joli en japonais.
Ouais.
Mais c'est les kawaii un peu, les jeunes filles kawaii, donc qui sont assez extravagantes, qui se mettent des pompons dans les cheveux avec des froufrous, des robes roses, violettes, jaunes et qui sont maquillées comme des poupées. Donc ça, c'est très, très connu au Japon aussi. Mmh. Donc le déguisement est très, très aimé au Japon. Mais c'est vrai que les travailleurs sont assez sobres.
Mmh. C'est ça qui est paradoxal. Ces filles qui sont avec des couettes et des mini-jupes, avec de la dentelle, face aux salaryman qui sont habillés tous en uniforme.
Tout à fait, c'est assez drôle.
Est-ce que tu as une icône de mode?
Ma mère, ma maman, je trouve qu'elle s'habille très chic, très élégante et toujours, à n'importe quelle situation, elle est belle et je l'admire beaucoup.
Quelle est ta définition de l'élégance?
Alors, pour moi, l'élégance, c'est d'abord la simplicité, avant tout. C'est la non-prise de tête et se sentir bien dans son vêtement. C'est ça, être élégant. Pour moi, ça se remarque dans la posture, dans la manière de marcher, de se mouvoir. Pour moi, c'est ça l'élégance.
Tu vois, en préparant l'émission, je te demandais qu'est-ce que c'était la mode pour toi. Mmh. Et bah, tu m'as dit il y a plusieurs définitions, comme tu m'as donné plusieurs définitions d'élégance.
Ouais.
En tout cas, merci. J'ai été transportée au Japon. On va suivre l'aventure de Nimette. Et je la relayerai aussi sur mon Instagram, parce que je suis vraiment fascinée par ce que tu fais.
Oh, merci Valérie, ça me touche beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.